Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique des Toulousains de Toulouse. Bonjour Jean-François Ladjé.
Bonjour Sébastien Pénary, bonjour à tous.
Eh bien, nous avons évoqué la ville romaine, nous avons évoqué la très proche banlieue, bien que le mot banlieue ne soit pas très adapté pour parler de la proximité de ce qui se vivait, ce qui se passait sous les remparts de la cité romaine. Et on va aujourd'hui parler des morts, peut-être, qui sont tout près et sous les remparts de la ville ou le long des routes qui amène et favorise les circulations vers la cité de Toulouse. Alors, les morts, où est-ce qu'ils étaient enterrés, Jean-François ?
Sébastien, les morts dans les villes de l'Empire romain ne sont pas enterrés à l'intérieur de ce qu'on appelait le pomerium. Vous vous rappelez ce pomerium, ce fameux petit tas de terre laissé par la charrue lorsque la cérémonie rituelle délimitait l'espace sacré de la ville avec un intérieur, un extérieur. Alors, ce qui pourrait apparaître comme un paradoxe, c'est que l'espace sacré était à l'intérieur, mais c'était bien le monde des vivants. Le monde des morts était à l'extérieur du tracé. Et donc, les nécropoles romaines sont systématiquement hors les murs ou hors de ce qui était la limite considérée comme celle de l'espace urbain de la ville quand il n'y avait pas un mur pour matérialiser cette limite. Et à Toulouse, donc comme ailleurs, les nécropoles sont donc hors les murs. Je reviens un petit peu sur ce paradoxe, puisqu'on avait vu la fois précédente que, en période de Pax Romana, la ville, même à l'intérieur des murs, n'est pas extrêmement dense. Et en dehors du centre monumental, il y a des espaces non bâtis. C'est-à-dire que plus on se rapproche du rempart, côté intérieur, plus il y a des espaces libres. Donc on aurait pu effectivement imaginer que les morts soient enterrés sur ces zones-là. Ce n'était donc pas le cas, vu de ce que je viens de dire. Et ces zones-là, en fait, étaient plutôt des zones dédiées à des activités qui pouvaient être des casernements, qui pouvaient être de l'artisanat, etc. Donc si on revient aux morts, vous avez raison de dire que les principales nécropoles se situaient le long des voies d'accès aux principales portes de la ville. On va prendre quelques exemples. On avait terminé la dernière fois sur le quartier Saint-Michel-Saint-Roch. Je vais développer un petit peu aujourd'hui cette question sur le quartier Saint-Roch, parce qu'on peut vraiment avoir l'image de cette porte narbonnaise qui ouvrait donc une grande voie, une voie très large, hein, je faisais le parallèle avec une autoroute par rapport à aujourd'hui. Ces principales voies étaient très larges et sur les bas-côtés. Donc il faut imaginer au plus près peut-être plutôt les activités de roulage, etc., dont j'ai parlé l'autre jour. Mais après, très vite, des alignements de monuments funéraires. C'est-à-dire que les familles de la ville, et pas forcément... Alors les principales, bien sûr, mais pas que. On va dire que... Dans cette Tolosa romaine, gallo-romaine, il y a une classe moyenne et donc des familles qui ne sont pas des citoyens romains, mais qui pour autant ont quand même déjà une position dans la ville qui leur permet d'avoir les moyens de faire construire un tombeau, pas forcément aussi monumental que les grandes familles nobles, mais malgré tout un tombeau de pierre, avec des inscriptions, etc. Et il faut imaginer ça sur des centaines de mètres. C'est-à-dire que ça va très loin à l'extérieur de la ville, vers donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier Saint-Roch, dont on avait vu également l'antériorité, hein, puisqu'il y avait là une ville gauloise abandonnée au 1er siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère. Donc, mais malgré tout, on l'avait évoqué, cette ville avait été abandonnée, puisque repositionné à l'emplacement dont on parle depuis quelques semaines. Mais du coup, ce lieu qui avait été habité était devenu finalement un lieu mémoriel pour les familles. Et donc, on va revenir un tout petit peu aussi sur le mot de féretra. Vous en avez dit deux mots, mais je crois qu'Aline aurait souhaité qu'on le réévoque parce que ce mot de phéretra vient du latin phéretrum, qui lui-même vient du grec ancien, le phéretron. On sait que le on grec souvent est latinisé en homme. Et en fait, ce phéretron ou phéretrum, c'est une civière, c'est un lit mortuaire. C'est-à-dire, c'est le lit funèbre sur lequel on transporte le corps du mort jusqu'à la tombe lors de la cérémonie des funérailles. Et donc, par déformation, le phéretra a donné le phénétra. C'est aussi une question qu'on m'a posée. Ce phénétra qui était à l'origine une fête annuelle lors de laquelle les habitants de la ville se chargeaient de paniers pour des repas, des paniers pour des offrandes, et allaient passer la journée un peu en cortège sur la nécropole. Donc on allait voir les tombes familiales, on y passait la journée avec des victuailles, on faisait des offrandes, il y avait tout un certain nombre de rituels, et donc on se rendait sur cette nécropole pour honorer les morts.
Ce qu'on voit dans certaines cultures encore.
Absolument, Sébastien.
Cette interaction entre les vivants et les morts.
Exactement, ce sont des fêtes et des rituels qu'on retrouve dans beaucoup de cultures et qui ont pu perdurer, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Et dans notre phénétra, ou nos phénétras au pluriel, dans les faubourgs toulousains, sont les héritiers de ces cortèges annuels qui allaient sur les nécropoles. Voilà, sachant que au carrefour de la voie narbonnaise et du chemin de l'Ariège, j'évoquais déjà ce carrefour où se trouve aujourd'hui la petite église Saint-Roch, qui a succédé à Notre-Dame du Phéretra, qui est une église médiévale. Mais cette église Notre-Dame du Phéretra a probablement succédé elle-même à un oratoire chrétien qui devait être à ce carrefour dont j'ai déjà parlé lors de ces séances précédente, puisque d'un côté on allait vers Narbonne, de l'autre côté on allait vers la vallée de l'Ariège, les Pyrénées et l'Espagne, enfin la Catalogne. Et donc ce carrefour important, donc irrigué donc cette nécropole, et c'est pas très étonnant qu'il y ait un oratoire, hein, puisque auparavant il y a l'hypothèse effectivement d'un petit temple antique et même peut-être gaulois, c'est-à-dire que vraiment il y a sans doute une permanence entre la ville gauloise, la ville romaine et les générations suivantes et les époques suivantes, avec là, à ce carrefour, un lieu de culte donc qui rappelle vraiment la signification de ce lieu. Alors aujourd'hui, il est assez insignifiant.
Oui, il est assez anonyme au milieu de l'urbanisation. Anonyme. Oui.
Nous avons au musée de Vieux-Toulouse une très belle représentation de cette église Notre-Dame du Phéretra avec un grand cyprès qui la domine à l'arrière. Qui montrait, voilà, alors c'était assez bucolique, c'est une toile qui fait un peu penser aux Aliscans de Arles.
Oui.
Alors évidemment, à Arles, la voie a été protégée, elle a été maintenue, et donc c'est un lieu patrimonial extrêmement intéressant. Il faut s'imaginer un petit peu ce secteur-là, en allant aux Aliscans, on peut retrouver cette atmosphère donc qu'il devait y avoir dans le coin.
Toutes sortes de tombeaux, de pierres tombales gravées d'inscriptions.
Gravées d'inscriptions, etc. Ouais. Sachant que, bon, on y reviendra pour les siècles suivants, mais tout cela a été fortement endommagé par la suite, puisqu'en temps de conflit ou de grande insécurité, les pierres de ces monuments funéraires ont pu être récupérées pour renforcer les défenses de la ville, pour rapatrier la population à l'intérieur, etc. etc. Ouais. On verra ça plus tard. Mais voilà un petit peu l'image de ce quartier-là. Alors, sur les autres voies, on a le même phénomène. On a la voie orientale, c'est-à-dire qui s'ouvrait à partir de la porte plus tard appelée Saint-Étienne. Vous vous rappelez le Decumanus, donc Maximus, la grande voie ouest-est et à l'est, donc à peu près au niveau du débouché de la rue de Metz, au niveau du monument aux anciens combattants.
Et qui est actuellement le chantier du métro.
Exactement, Sébastien, le chantier du métro. Donc il y avait là, juste au niveau de l'entrée de la rue de Metz, cette fameuse porte médiévale, mais qui a remplacé une porte romaine, qui ouvrait elle-même donc une voie vers l'est, vers la région de Castres, et donc qui rattrapait la voie domitienne le long de la Méditerranée. Et le long, là aussi, à l'extérieur des murs, le long de cette voie, à peu près, on pourrait dire, place du Puy actuelle, et là, à Logrin actuelle, une autre nécropole, peut-être moins importante, on ne sait pas, que celle de Saint-Roch. Il devait là y avoir également un lieu de culte. Alors je dis il devait, alors vraiment au conditionnel, tout simplement parce que plus tard il y a là une basilique cimetériale, hein, une petite église de cimetière, hein, connue au Moyen-Âge sous le nom de Saint-Sauveur, qui a donné le nom au quartier Saint-Sauveur. Cette petite église de Saint-Sauveur se trouvait là aussi, comme Saint-Roch au Ferretra, au croisement de deux voies qu'on retrouve toujours, c'est-à-dire vers la Côte Pavée,
oui,
et vers Guimery. Et donc là, cette nécropole se situe à cet endroit-là. Voilà. Un troisième exemple, et je vais arrêter là. Côté nord, on a évoqué la Porta Rietis, hein, ce qu'on a appelé plus tard la Portarie, hein, la Porta Rietis qui est devenue la Portarie, à la Porterie, place du Capitole, avec la grande voie vers Cahors. Et le long de cette voie vers Cahors, là également, une nécropole, quartier du Thor, une nécropole promise à un avenir important, puisqu'on le retrouvera dans quelques séquences. C'est la basilique Saint-Cernin, c'est ce secteur-là. Mais donc, au 1er siècle, hein, on est encore au 1er siècle, donc une nécropole importante à ce débouché de portes.
Et pour finir, c'est quelque chose de très courant d'avoir une voie de grande circulation et les tombes autour, des découvertes récentes peut-être.
Alors,
faire vite.
Des découvertes récentes pour faire vite, pas plus tard que ce matin, on a vu une publication à Nîmes, sur un bord de voie romaine, exactement sur ce profil-là. Et puis, bien sûr, comment ne pas citer la Via Appia à Rome, ou sur des kilomètres. Là, il y a un grand parc archéologique aménagé par la municipalité de Rome le long de cette voie, avec tous ces monuments, ces cyprès, ces pins parasols. Plus les recherches avancent, et plus on met à jour, et plus elles avancent aussi justement en périphérie, c'est-à-dire pas uniquement dans le centre monumental des villes, et là vraiment c'est un apport de l'archéologie préventive des dernières décennies, c'est d'arriver à faire des découvertes vraiment sur ce qu'était la banlieue.
Eh bien, merci Jean-François, et à la semaine prochaine.
À bientôt Sébastien, merci.